Bien, cette conférence du Vendredi Saint, il est normal que nous nous intéressions à la passion, aux souffrances de notre Seigneur. Le prophète Jérémie a dit dans les Lamentations, « Attendite et videte, si es dolor, si cut dolor meus. » Arrêtez-vous et voyez, considérez s'il y a une douleur pareille à ma douleur. Ces paroles s'appliquent à notre Seigneur. Il n'y a pas eu de plus grande douleur subie ici-bas par quelqu'homme que ce soit que ce qu'a subi notre Seigneur. Donc, intéressons-nous à ce que notre Seigneur a pu souffrir dans son corps et surtout dans son âme. C'est surtout là qu'il fallait chercher la plus grande des douleurs. Je me suis basé pour cet exposé sur un long sermon du bienheureux Claude de la Colombière, qui a été le confesseur, le directeur spirituel de Sainte Marguerite Marie à la Coque, la voyante des apparitions du Sacré-Cœur au XVIIe siècle. Tout d'abord, voyons quelques images de la Passion, surtout dans l'Ancien Testament. C'est tous ces personnages, beaucoup de personnages de l'Ancien Testament, figurent notre Seigneur Jésus-Christ souffrant. Mais alors, bien sûr, ce ne sont que des figures. Chacun de ces personnages que je vais vous citer ne représente qu'une des parties de ce que notre Seigneur a souffert. Et même tous ensemble, si on mettait tout ça ensemble, nous n'aurions qu'une faible image de ce que notre Seigneur a pu subir. Tout d'abord, vous avez Abel, l'envie de Caïn, qui représente la jalousie des docteurs et des pontifes, le meurtre d'Abel, qui est la figure du supplice de la croix. Vous avez aussi dans l'Ancien Testament le patriarche Isaac, qui était prêt à mourir de la main de son père. Vous savez, c'est lorsque l'ange demande à Abraham de sacrifier son fils unique, enfin le fils de sa femme. Et cela, Isaac, qui était prêt à mourir, représente notre Seigneur sacrifié par le Père éternel et qui accepte la mort que le Père éternel a décidée. Vous avez aussi le patriarche Joseph, donc l'avant-dernier des fils de Jacob, qui était très envié par ses autres frères, et parce qu'il était le préféré de son père, Saint Joseph a été persécuté par eux, ils voulaient le tuer, et bon, grâce au frère aîné, Ruben, au lieu de le tuer, ils l'ont mis dans une citerne, et ils l'ont vendu comme esclave, à des marchands qui passaient par là. Joseph représente, encore une fois, notre Seigneur, parce qu'il a été persécuté, il a été vendu par ses frères, comme il a été vendu par Judas. Il a été calomnié après, quand il est arrivé en Égypte, il a été vendu comme esclave à un riche général égyptien. Et la femme de cet Égyptien voulait commettre le péché avec lui. Il a refusé. D'ailleurs, vous avez sur cette église, vous avez l'histoire du patriarche Joseph, moment en frise. On la voit de moins en moins, mais surtout au fond. On voit les chameaux sur lesquels il est parti en Égypte. Il faut regarder après, mais on ne voit plus grand-chose. Et donc voilà, la femme de Putiphar, comme il a refusé ses avances, elle l'a calomnié en disant que c'était lui qui a voulu attenter à sa pudeur. Du coup, il a été emprisonné. Et tout ça donc représente notre Seigneur, encore une fois, qui a été accusé par la synagogue, à tort, d'un faux crime. Et il a été livré ensuite aux soldats romains pour être mis à mort. Donc Joseph est une belle figure de notre Seigneur, voyez-vous. Mais ce n'est qu'une figure et on est très loin de ce qu'a souffert notre Seigneur. Vous avez aussi le prophète David, chassé de Jérusalem par son propre fils. Bon, bien sûr, c'est David a péché. Il a voulu avoir la femme d'un de ses généraux. Il a fait mourir le général au combat quand il n'a pas pu dissimuler le fait qu'elle était enceinte. Mais après, le bon Dieu l'a châtié. Mais dans ses châtiments, notre David, qu'il a accepté pleinement, le psaume 50, le miserere, c'est le cri du cœur de David quand il reconnaît qu'il a péché. Mais après, le bon Dieu l'a châtié. Mais malgré tout, dans ses châtiments, David est une figure de notre Seigneur. Et voilà, bon. David a été chassé de Jérusalem par son propre fils, Absalom, qui voulait prendre sa place. Il a été abandonné de ses sujets, Il a été réduit à prendre la fuite. Il a dû monter la colline des Oliviers, pieds et tête nus, comme notre Seigneur. Et tandis qu'il s'échappait par la colline des Olives, Séméi, un de ses anciens amis, armé de pierres, le poursuivait pour lui jeter des pierres et pour le charger d'insultes et de malédictions. Là encore, on a une image du chemin de croix, voyez-vous, dans ce prophète David, c'est l'image du chemin de croix. Le Seigneur, lié comme un criminel, couronné d'épines, succombant sous le poids de la croix et allant au calvaire pour y souffrir une mort infâme. Et sous la malédiction des Juifs, pareil. Pareil. Vous avez aussi le prophète Job, couvert d'ulcères sur son tas de fumier, affligé de beaucoup de maladies différentes, et pareil, en but aux railleries de ses amis, aux insultes de sa femme. Voilà, donc c'est encore une image de notre Seigneur Jésus-Christ ce qu'on loue chez Job, voyez-vous, c'est sa patience avec ses amis, sa patience avec son épouse, sa patience avec la perte de ses enfants, sa patience avec la perte de tous ses biens, sa patience avec ses ulcères. Il y a plus de patience en notre Seigneur Jésus-Christ, bien plus, bien plus. Tout ça, c'est une figure. On est très loin derrière notre Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous. Mais voyez, ce sont de belles figures, voyez-vous, qui nous aident un peu à pénétrer dans ce mystère de la passion. Après, donc, voilà pour les figures de l'Ancien Testament. Si on passe maintenant à ceux qui l'ont imité après la Passion, donc dans le Nouveau Testament, les martyrs, on trouve chez les martyrs de grandes souffrances et des fois des supplices qui sont absolument abominables. Mais toujours, il y a toujours la douceur mêlée à leur peine. Le bon Dieu donne toujours des consolations à ces martyrs. Vous avez Saint Laurent sur son grill. Il témoigne lui-même qu'il souffre énormément dans son corps, mais il jouit dans son âme de grandes consolations, au point qu'il arrive à plaisanter. C'est assez pire de ce côté, mais tournez-moi de l'autre côté. Et on trouve ça aussi chez d'autres martyrs qui ont eu de grandes consolations, qui Saint Étienne, ce qui est lapidé et qui dit « Je vois le ciel ouvert ». Vous voyez ? Chez notre Seigneur, on va voir, c'est un peu plus compliqué. De plus, chez les martyrs, bon, la mort n'a rien de honteux, même aux yeux des hommes. Vous voyez Sainte Jeanne d'Arc, par exemple, tout le monde confessait que c'était une sainte. Bon, il y avait les meurtriers qui s'acharnaient sur elle, mais toute la foule était derrière elle. Même les bourreaux ont témoigné qu'ils avaient tué une sainte. Voilà. Donc, qu'on regarde avant la Passion ou après la Passion, donc ceux qui ont été les figures ou ceux qui l'ont imité, on reste encore très loin derrière ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Aucune souffrance n'égale celle du Christ. Les souffrances qu'a souffert notre Seigneur ne peuvent être comparées, il ne peut être comparé qu'avec lui-même. Alors, avançons un peu plus loin et intéressons-nous surtout aux peines intérieures. C'est là où nous trouverons vraiment la clé des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes frappés, nous, par les choses extérieures, par le sang qui coule, par les clous qui s'enfoncent dans la chair, par la couronne d'épines qui déchire la tête de notre Seigneur. Mais si nous voulons comprendre le pourquoi ces souffrances, il faut rentrer dans le cœur de notre Seigneur. Ces choses extérieures sont là pour nous faire comprendre ce que notre Seigneur a vraiment souffert intérieurement. Or, le problème des peines, et même d'ailleurs des plaisirs de l'esprit, c'est qu'il faut les sentir pour les comprendre. Lorsqu'on a goûté les grandes joies spirituelles, alors plus aucune volupté sensuelle n'a de prix. Quand on a goûté les consolations de Dieu, tous les plaisirs de la terre s'effacent, ça ne vaut plus rien du tout. Et de la même manière, lorsqu'on a goûté les épreuves, les désolations intérieures les plus crucifiantes, les plus difficiles à supporter, alors les douleurs de la chair ne valent plus rien. On accepterait facilement une souffrance du corps pour se libérer d'une souffrance de l'âme qui nous déchire le cœur. On voit bien qu'il n'y a pas, c'est pas la même chose. Toute proportion gardée, bien sûr. Les affections du cœur, d'ailleurs, sont les plus communes. Sont plus communes que les infirmités du corps, en général. Il y a toujours des exceptions, mais en général, on souffre plus facilement dans son cœur que dans son corps. Surtout aujourd'hui avec la médecine. Et ni les richesses, ni la puissance n'en exemptent. Notre Seigneur a voulu porter toutes nos douleurs internes. Vere dolores nostros ipse portabit. Donc c'est le prophète Isaïe. Il portera lui-même vraiment nos douleurs. Et elles sont retombées en plus grand nombre sur son cœur que sur son corps. Parce que notre Seigneur, dans sa passion, a pour but non seulement de nous apprendre à souffrir, chrétiennement, mais aussi de nous épargner les peines de l'autre vie. Et il est venu sur la croix payer nos dettes, pour nous nos dettes, que nous avions contractées à la justice de son Père. Ces douleurs n'ont pas égalé celles de l'enfer. Ces douleurs secrètes qui ont été causées, on va prendre trois points. Premièrement, avant le supplice corporel et extérieur, donc au jardin des Oliviers. Deuxièmement, pendant le supplice jusqu'à la croix. Et enfin, sur la croix. Premièrement, c'est là le plus intéressant, c'est là où le développement est le plus long. Ce sont ces souffrances au jardin des Oliviers. C'est là où nous pénétrons le plus dans les douleurs internes de notre Seigneur. Après, bon, surtout sur la croix, on est surtout marqué par les choses externes et le sang qui coule. Au jardin des Oliviers, nous assistons à la manifestation extérieure par des paroles, par des gestes, par cette sueur de sang, de ce que notre Seigneur a porté depuis son incarnation dans son cœur. Au jardin des Oliviers, les tourments et la mort à laquelle il sait depuis le début qu'il allait être soumis, et les causes pour lesquelles il allait devoir subir ces tourments et cette mort, se présentèrent d'une façon plus vive, à son cœur et à son imagination, parce qu'il l'a voulu. Son âme a été saisie d'une si grande horreur, d'une si accablante tristesse, qu'elle parut comme cédée et pliée sous la pesanteur du fardeau. Comme cédée. Il n'a pas cédé, mais comme. Il a ressenti dans son âme tout ce qu'il allait ressentir dans son corps. En même temps et tout à la fois, les soufflets, la flagellation, les épines, les clous. Un peu comme Job, qui a reçu toutes ces épreuves d'un seul coup. La perte des enfants, la perte de la maison, la perte des troupeaux, la maladie, etc. Tout arrive d'un coup. Au jardin des Oliviers, le Seigneur, c'est pareil, c'est tout d'un coup qui arrive dans son esprit. Et si après, dans les fouets, dans les clous, dans les épines, on peut noter la tranquillité, la souffrance bien sûr, mais la tranquillité dans le cœur de notre Seigneur, l'acceptation pleine et entière, cette constance ici, au jardin des Oliviers, semble ébranlée. Il pâlit, il tremble, il sue, il se plaint, il gémit au jardin des Oliviers. Il ne le fera plus après. Il y a quelque chose qu'il faut toucher ici, voyez-vous. Il combat dans lui-même et contre lui-même. Il ne se soutient qu'à peine, au point qu'un ange doit venir le réconforter. Comme s'il allait céder ou mourir dans le combat. D'où vient cette douleur excessive? D'où vient cette affliction si profonde? Non pas de cette mort qu'il nous a appris à mépriser et qu'il nous ordonne de braver. La source est plus profonde. Elle est plus profonde, la source de cet accablement. Cette mortelle frayeur, cette sueur de sang, cette agonie sans exemple, tout cela pris ensemble, n'exprime qu'une très légère partie de l'affliction de son cœur. C'est que la manifestation extérieure de ce qui se passe au fond de son cœur et qui est beaucoup plus profond. Si on cherche le pourquoi de cette souffrance, c'est à cause du péché. Donc c'est dit, on va non seulement au jardin d'Olivier tout ce qu'il va subir, mais il en connaît la cause. La cause, ce sont les péchés de tous les temps. Ce sont nos péchés. C'est ça la cause de la souffrance profonde de notre Seigneur. Et voyez-vous, il y a des douleurs qui ne sont rien en comparaison de ce qu'a subi notre Seigneur. Quand un roi est réduit en captivité et qu'il voit de sa prison, voyez passer ses favoris réduits à l'aumône, sa fille servir comme une vile esclave, ses fils expirer dans les plus infamants supplices, comme ça s'est passé dans le passé, je peux donner des exemples. Cette douleur-là n'est rien en comparaison de ce qu'a subi notre Seigneur. Si on prend notre exemple d'un autre prince que son frère obligea de manger la chair de ses enfants égorgés et de boire leur sang dans leur crâne. Encore un exemple qui s'est vraiment passé. Ce n'est rien en comparaison de ce qu'a subi notre Seigneur. Un autre exemple d'un jeune époux qui vit au jour de son mariage l'épouse qu'il avait tant désirée percée de 1000 coups. On est encore. Ce sont des souffrances très lourdes. Mais on est encore très loin de ce qu'a souffert notre Seigneur pendant sa passion et surtout au jardin des Oliviers. Madeleine, Sainte Marie Madeleine, éprouva un cruel supplice en voyant expirer sur la croix l'objet de son amour. La Sainte Vierge aussi a eu le cœur percé des mêmes clous qui déchiraient les mains de son Fils unique. Et le martyr de la Sainte Vierge, si on peut appeler ça un martyr, c'est d'une manière secundum quid, surpasse les tourments de tous les martyrs pris ensemble. Et cependant, on est encore très loin derrière notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela n'approche pas les sentiments amers que ressentit notre Seigneur à la première infidélité qui ravit l'innocence du baptême. Un seul homme aurait commis un seul péché mortel dans toute l'histoire de l'humanité, nous aurions eu cette souffrance de notre Seigneur. Nous aurions eu cette souffrance à cause du péché. Un seul aurait suffi. Et imaginez l'histoire de l'humanité. Il y a des belles choses, mais il y a aussi beaucoup de vilaines choses. Beaucoup de péchés ont été commis, beaucoup de péchés se commettent. Des péchés terribles. Et au fond, c'est toujours l'égoïsme. C'est toujours la recherche de soi. Par les trois concupiscences. L'argent, vouloir posséder, dominer, l'impureté, la recherche du plaisir, quoi qu'il en coûte aux autres, quoi qu'il en coûte à mon âme, et l'orgueil. Dominer. Dominer les autres. Imposer sa volonté. L'égoïsme en toute chose. Deux amours ont construit deux cités, saint Augustin. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, jusqu'à la haine de Dieu, la cité du diable, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu. Notre Seigneur, allons plus loin, est plus touché d'un seul péché véniel commis contre Dieu que les pénitents célèbres de leurs plus grands crimes. Quand on voit les pénitents célèbres qui ont pleuré les péchés qu'ils avaient commis, péchés graves comme David par exemple, notre Seigneur est plus touché d'un seul péché véniel, une offense contre Dieu. Notre Seigneur, qui est Dieu, connaît très bien le mal du péché. Il a voulu le ressentir dans son corps en prenant la nature humaine. Dieu, dans sa nature divine, ne ressent pas le péché, Dieu n'a pas de sensation. Mais Dieu connaît le mal du péché. Parce que voilà, notre Seigneur a une connaissance des perfections infinies de Dieu, de son amour, cet amour infini de Dieu. Et en même temps, il a une connaissance, il sait que ce même Dieu est méprisé, insulté, outragé par presque tous les hommes, dans tous les lieux du monde, et jusqu'à la fin des temps, ce sera ainsi. Notre Seigneur sait cela. Et tout cela arrive dans son esprit au Jardin des Oliviers. Il voit tout cela. Et voyez-vous, si un seul péché mortel ou même véniel lui a causé assez de tristesse pour lui arracher l'âme du corps d'une certaine manière, ces péchés si énormes qui font la honte de la nature et qui font même horreur aux démons d'une certaine manière, ces amas immenses d'iniquité, cette mer d'abomination qui a inondé la terre, quel accablement ont-ils dû pu produire sur une âme si pure? De combien de morts lui a-t-elle fait à chaque moment ressentir le supplice? Et quand si on prend maintenant une comparaison avec les peines de son corps, les peines du corps sont bien loin d'égaler ces peines de l'esprit. Et comme dit le bienheureux Père de la Colombière, les peines du corps ont été comme un soulagement, comme un remède dans lequel notre Seigneur s'est jeté pour expier ces fautes de l'esprit qui lui accablaient le cœur. Comme on peut trouver des gens qui s'imposent des souffrances physiques pour se libérer de souffrances de l'âme. Ça existe. Car les plaies physiques, réparaient les outrages faits à son Père. Et par la destruction de sa chair, le péché était détruit, la gloire de Dieu réparée, la justice vengée, le monde purifié, réconcilié avec Dieu. C'est ce que son Père avait demandé. Vous savez que notre Seigneur étant Dieu, Dieu et homme, le moindre acte qu'il fait, la moindre respiration, la moindre petite pensée, n'importe quoi, a une valeur infinie, parce qu'il est Dieu. Et cet acte infini, fait par un Dieu, dépasse tous les péchés commis par les hommes. Ça suffit. Rien que l'incarnation, le premier acte de notre Seigneur, ça suffit à tout réparer. Depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Ça suffit largement. Il est Dieu. Mais le Père a imposé la croix. Il faut aller jusqu'à la croix. Parce que c'est ça le péché. Il faut que nous comprenions ce qu'est le prix du péché. Vous savez, pour la rédemption, c'est quand saint Thomas s'interroge. Pourquoi la rédemption? Comment? Il dit, Dieu aurait pu faire trois choses. Comme avec un enfant qui a cassé quelque chose de précieux à la maison. Un vase qui coûte très cher, par exemple, ou une horloge qui coûte très cher. On met le morceau par terre. Soit les parents peuvent dire, bon ben c'est pas grave, on va payer pour toi, on va jouer dans ta chambre, c'est terminé, on n'en parle plus, et on va la remplacer, ce qu'on appelle la condamnation en théologie. Dieu aurait pu effacer le péché directement, on n'en parle plus, et on continue comme avant. Mais c'est pas très éducatif. Dieu aurait pu, comme certains parents, évidemment l'enfant n'a pas le prix pour payer. Donc tu vas faire la vaisselle pendant 2-3 semaines, tu vas faire des ménages, etc. Puis c'est nous qui allons payer l'horloge, qui allons la réparer. Dieu aurait pu accepter des actes finis d'hommes, ici-bas, d'un ou plusieurs, qu'il aura accepté, voilà, comme la vaisselle. Mais le prix n'est pas payé. Non, Dieu sait très bien que pour que nous comprenions. Le problème de cette deuxième solution, c'est que ça aurait pu tourner à l'orgueil des hommes. C'est nous qui nous sommes sauvés. Et en plus, nous n'aurons pas compris ce que vaut le prix du péché. Non, Dieu est venu s'incarner lui-même pour réparer le péché. Et pour mourir. Et le Père a imposé la mort de la croix dans des souffrances terribles pour que nous comprenions ce qu'est le péché. L'offense que le péché est pour Dieu. le mal que le péché fait à Dieu. Tout ça, c'est gravé dans les plaies de notre Seigneur. Mais encore une fois, il faut aller au-delà des plaies. Il faut pénétrer dans l'âme de notre Seigneur pour comprendre le mal qu'est le péché. Continuons, avançons. Après 3 heures de la plus excessive désolation qui fut jamais, il n'aperçoit pas plutôt les soldats qu'au lieu d'éclater, de se laisser abattre, il se lève et paraît tout à lui. Voyez, une fois le jardin des oliviers, notre Seigneur reprend tout à fait le contrôle, accepte la mort et va jusqu'au bout. Le jardin des oliviers, c'est comme l'âme de la passion. Le calvaire, c'est le corps. Il congédie ses apôtres, leur permet de dormir, comme n'ayant plus besoin de consolation. Il est plein de force et d'intrépidité. Il se livre à la rage de ses ennemis. Il leur montre qu'il est le maître, ils tombent tous à terre, par l'effet de sa puissance, et après ils se laissent attraper. Il se montre jusqu'à la mort si peu ému, si calme, si supérieur aux plus cruels événements, qu'on ne peut douter que ces nouveaux supplices n'aient un peu apaisé la douleur qui le pressait. Voyez, le bienheureux Paul de la Cambière nous montre le confirmatum. Les souffrances physiques ont été pour lui comme un soulagement. Et il s'y jette avec une sorte de calme et de résignation, de réelle volonté, pour se défaire, pour réparer tout ce qu'il a vu dans son esprit, tout ce qui a accablé son esprit. J'aimerais vous lire quelques passages de ce livre, qui s'appelle « Oraison et ascension mystique » de saint Paul de la Croix. Alors, c'est un saint, ce n'est pas notre Seigneur, mais pour vous compreniez ce que peuvent être des souffrances spirituelles. Là, il s'agit des purifications passives qui sont dues au péché. Notre Seigneur, lui, voyait Dieu dans sa passion, même au jardin des oliviers. Il avait cette claire vue de Dieu par la vision béatifique. Il n'était sans péché. Son âme était purifiée dès la conception. Mais chez nous autres, c'est différent. Chez nous autres, c'est différent. Pour parvenir aux plus hauts états de prière, le bon Dieu purifie nos âmes. Purifie nos âmes. D'abord par la purification sensible, où le bon Dieu supprime les consolations sensibles, notamment. Et il y a aussi des tentations sur la patience et la chasteté. Et en même temps, le bon Dieu nous donne un vrai désir d'une oraison plus simple, de simple regard. C'est la première purification, purification des sens. Et après, il y a la deuxième purification de l'esprit, que peu d'hommes subissent, très peu, qui est une purification sur les vertus théologales, foi, espérance et charité. Et le bon Dieu vient supprimer toutes les attaches humaines que nous pourrions avoir, sur laquelle pourrait reposer notre foi, notre espérance, notre charité. Par exemple, les attaches humaines sur la foi, c'est côtoyer des gens qui pensent comme nous, les consolations de la prière, les lumières qu'on peut avoir sur Dieu. Le bon Dieu supprime tout ça. Supprime tout ça. Et on voit ça dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle explique pendant une année, elle a dit plus d'actes de foi que tout le reste de sa vie. Et à la fin, elle disait, je veux croire, je veux croire. Saint Vincent de Paul, il avait écrit le credo qu'il avait mis sur son cœur. Et chaque fois qu'il la foi était attaquée, qu'il avait des doutes, il mettait la main sur son cœur, sur son credo. Attaché au credo. Donc, dans cette. Saint Paul de la Croix était quelqu'un d'intéressant parce que c'est lui, je crois, enfin, j'ai pas eu d'autres exemples, d'un saint qui a eu les plus longues désolations qui ont jamais été. 45 années de désolation. Discontinue. Donc je lis quelques pages. Le serviteur de Dieu me dit une fois que si ses afflictions intérieures duraient encore un quart d'heure ou même moins d'un quart d'heure, il en serait mort. Tellement c'était violent. Et c'est rien à côté de ce que subit notre Seigneur, voyez-vous. Le but, c'est de faire le comparatif, encore une fois, pour rester dans l'esprit de la passion. Un jour, que le serviteur de Dieu venait de rentrer après une absence, je l'aidais à se coucher sur sa pauvre paillasse. Je me rappelle que le père Jean-Baptiste, son frère, lui demanda comment il se portait. Il répondit, « Mon frère, s'il n'y avait que mon infirmité physique, elle serait pour moi comme un collier de l'or le plus fin que je porterai au cou. » Voyez-vous, la comparaison entre les souffrances physiques et les souffrances de l'âme. S'il n'y avait que mes infirmités physiques, ce serait pour moi comme un collier d'or que je porterai au cou. Le serviteur de Dieu répétait encore parfois les paroles du prophète Jérémie. « Conclusit vias meas rapidibus quadris » Bon, je passe sur le latin. Je passe. Par allusion aux infirmités corporelles et aux assauts du démon qui venaient de s'ajouter aux délations spirituelles et les renforcer, il disait répéter dans l'enveloppe de son âme, « Oui, je cacherai ma face de vous et je serai dans la désolation. » D'après un autre témoin, il lui arrivait de dire quasi à son insu, « Je ne voudrais pas même voir un chien dans l'état où je me trouve. » Une pauvre servante qui excellait dans la pratique de la vertu et dans l'oraison déclare au procès, « En me parlant de ses désolations intérieures et de ses ténèbres, le serviteur de Dieu avait souvent les larmes aux yeux et il montrait une grande crainte d'être abandonné par le Seigneur. » Rosa Calabresi, la grande confidente du saint, déclare à son tour, « À ce que le serviteur de Dieu me dit, il sentait parfois, en raison de ses désolations intérieures, des transpercements de l'âme, qui lui occasionnaient intérieurement des spasmes, des douleurs et des angoisses mortelles. Alors, il ne pouvait même plus lever la tête. Il lui semblait qu'il n'en reviendrait pas. » Et ce n'est rien à côté de ce qu'a subi notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre âme encore qui monta aussi sous la direction de notre Saint au plus haut degré de l'oraison et mourut en odeur de sainteté, fut un jour priée par le serviteur de Dieu de vouloir bien le recommander à Dieu. Et l'obéit, se rendit à l'église et offrit ses supplications à Dieu pour le Père Paul. Pendant qu'elle priait ainsi, il lui fut dit, mentalement, que le Seigneur voulait lui faire sentir un échantillon des souffrances de celui pour qui elle priait. Après cela, elle se trouva tout à coup plongée dans un abîme de douleur tellement terrible que si elle ne s'était appuyée sur une colonne voisine, elle serait tombée par terre. Dans la suite, elle rapporta elle-même la chose au serviteur de Dieu. Pour toute réponse, celui-ci dit, « Oh, considère ce que c'est que de se trouver si longtemps dans pareil état. » C'est un échantillon de ce que le saint souffre, et le saint, c'est un tout petit échantillon, minuscule, de ce qu'a subi notre Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, si ça peut nous aider à comprendre ce qu'a subi notre Seigneur. Mais voyez, encore une fois, ces souffrances intérieures, on peut y pénétrer, on peut comprendre, non, mais les toucher, que par la prière, que par la contemplation. Il faut prier pour ça. Passons maintenant aux souffrances après Jardin d'Olivier jusqu'à la croix exclue. Les crimes commis pendant la Passion sont les plus énormes qui soient. Les crimes les plus énormes qui soient jamais sortis de l'enfer. À tel point que le soleil en perdit sa lumière, la terre trembla, toute la nature en parut épouvantée. Mais ce qui toucha davantage notre Seigneur, ce fut l'ingratitude de son peuple, l'ingratitude de ses amis qu'il avait choisis, qu'il avait choyés pendant 3 ans, les apôtres et les disciples. La jalousie des prêtres, Et tous en conviennent, c'est cette jalousie des prêtres qui est la cause de sa condamnation. Même Pilate le sait. Son innocence est plus claire que le jour, même pour les accusateurs et pour les juges. Les peines qu'a ressenties notre Seigneur, la première des peines, celle qui l'a fait le plus souffrir dans son intérieur, c'est l'infidélité des disciples et des apôtres, dont l'un le vendit, l'autre le renia, et tous l'abandonnèrent. Eux qui avaient été témoins de tant de merveilles, qu'il avait accompagné partout, qu'il avait connu dans son intimité, qu'il avait honoré du titre d'ami, qui avait étudié ses maximes. Ça, c'est la plus grande douleur. Avec les trahisons des amis du futur aussi. Des âmes baptisées, des prêtres qui ont trahi, qui trahissent, qui trahiront. Ça, c'est une grande, ça a été la plus grande souffrance de notre Seigneur. Encore une fois, c'est l'ordre de la charité. Hein. On est touché par les gens qui sont le plus proche de nous, c'était le sermon d'hier, proximus, le plus proche. Ensuite, ça a été la perte entière de sa réputation. Non pas qu'il tenait à sa réputation de manière, comme on peut y tenir aujourd'hui, de manière égoïste et centrée sur soi. Non, pas du tout. Mais il sait qu'il est Dieu. La perte de sa réputation, c'est la perte de la réputation de Dieu, de son Père aussi. C'est très différent. Hérode et sa cour croient que Jésus est un insensé, un visionnaire, qui s'est imaginé être Dieu. Et par la perte de sa réputation, il voit aussi la perte des âmes. Si les âmes ne le respectent plus, sa mission est vaine. Sa mission. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est le monde d'aujourd'hui. On parle de notre Seigneur, ça n'intéresse personne. Notre Seigneur n'intéresse plus personne aujourd'hui. Il a perdu sa réputation. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est la perte des âmes qui est derrière. Les Juifs de Jérusalem croient qu'ils ont été séduits par de faux miracles. La foule a été retournée par les princes des prêtres. Ils rougissent de lui après lui avoir donné toutes leurs créances. Les étrangers venus célébrer la Pâque sont persuadés qu'il n'est qu'un hypocrite, un scélérat reconnu. Et ils rapportent cela partout où ils retournent, dans les provinces où ils viennent. Notre Seigneur aussi, toujours dans la perte de sa réputation, a subi un mépris sacrilège qu'il a subi pendant sa passion. Traîné de tribunal en tribunal pour servir l'intérêt ou satisfaire l'ambition ou encore la curiosité des juges. Il devient le jouet d'un peuple furieux, insulté, moqué, frappé, sur qui on crache. Ego vermis et non homo, opprobrium hominum et abjectio praebis. Je suis un ver et non plus un homme, l'opprobre des hommes et l'abjection du peuple. Notre Seigneur est devenu un objet de mépris, de grand mépris. Il a été habillé en insensé, comme un fou, cette toge blanche. C'est la toge des fous. Conduit par toutes les rues, chez Pilate, nu à demi, vêtu en roi de théâtre, avec la chlamyde rouge, qui symbolise la royauté, au milieu de soldats insolents qui l'outragent de coups et de dérisions sanglantes. Notre Seigneur a été réduit, il est devenu le dernier des hommes. Voilà les peines les plus importantes qu'a subies notre Seigneur, avec les conséquences qu'il voit de la perte des âmes. Avançons au troisième point, les souffrances sur la croix. nous approchons du but. Le plus important pour moi, c'était surtout le premier point, les souffrances au jardin des Oliviers. Couronné d'épines, couvert de plaies, attaché par 3 ou 4 clous, on ne sait pas trop, ça dépend des traditions, cloué sur un tronc d'arbre, donc par 3 ou 4 clous. Il s'écrie dans le fort de ses douleurs corporelles qu'il a soif. Et comme l'expliquent les pères, cette soif, il explique de deux manières, soit c'est qu'il désire souffrir encore davantage dans sa chair, de plus rudes tourments, pour expier le péché, pour réparer l'honneur de son père, soit c'est la soif des âmes. C'est les deux explications. Sur la croix, il s'écrit « Deus, Deus, meus, quorum me reliquisti ?» Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé ?» Alors bien sûr, notre Seigneur, encore une fois, voit Dieu par la vision béatifique. Vous avez certains hérétiques qui ont dit qu'il avait subi les souffrances des damnés, c'est-à-dire la peine du damné, c'est-à-dire la séparation de Dieu. Ce n'est pas possible. Il est Dieu. Ce n'est pas possible. C'est blasphématoire. Mais n'empêche que dans la partie sensible de son âme, notre Seigneur, encore une fois, a subi un grand délaissement, comme nous l'avons vu au Jardin des Oliviers. La soustraction de toute consolation, la privation de toute douceur sensible, de tout ce qui pouvait le fortifier, le soutenir dans ses travaux. Une sorte d'éclipse de la partie supérieure de l'âme, c'est-à-dire que la partie supérieure de l'âme, qui voyait la vision béatifique de Dieu, n'avait plus aucune influence, il n'y avait plus qu'une redondance de cette joie de la vision béatifique sur la partie inférieure. Ça a été coupé par contre. Et ne se présentait à son esprit que des choses funestes, sa mort honteuse et cruelle, le peuple ingrat, les disciples infidèles, le monde couvert de crimes, l'enfer rempli de criminels, le père outragé surtout. Et comme dit ce n'était pas une coupe amère à laquelle il a bu, mais une coupe amère dans laquelle il était plongé et noyé. Et seule une douleur extrême sensible a pu obliger un fils si soumis et si obéissant à former des plaintes contre son père, à les faire éclater en présence de ses apôtres, au Jardin des Oliviers. Pour comprendre autant que possible cette frappante vérité, il faut se souvenir du zèle incompréhensible qui a fait descendre notre Seigneur sur la terre, qu'il a porté à faire et à souffrir autant pour nous aimer. Se souvenir qu'il était au comble de la douleur, accablé des peines extérieures et intérieures. Se souvenir encore que pour tout fruit de tant de travaux, il eut le déplaisir de voir un malheureux se damner à ses côtés, le mauvais larron. Et de voir dans ce mauvais larron un nombre infini d'autres hommes qui feront comme ce mauvais larron, qui perdront le fruit de la croix. Il était à côté de notre Seigneur. Il était à côté du sang rédempteur. Une parole à dire, il était sauvé comme son confrère. Et il ne l'a pas fait. Il a condamné, malgré les souffrances terribles qu'il avait sur la croix, c'est vraiment un supplice terrible, il insultait le juste, alors qu'il aurait pu se sauver si facilement. Si facilement. Cette damnation aussi a été une cause de souffrance terrible pour notre Seigneur. Et elle est le symbole de tous les damnés. Un acte de repentir aurait suffi pour chaque damné pour se sauver. Concluons. Quelles conséquences pour nous? Que faire? Tout d'abord, la contrition de nos péchés. Nous sommes pécheurs. La contrition de nos péchés. Vivre avec un cœur contrit. Se rappeler ce que nous sommes, des pécheurs. Ce que nous sommes, Nous sommes dans l'absolue nécessité de dépendre de ce sacrifice de la croix, de dépendre de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les jours, nous devrions penser à cela. J'ai été racheté par Jésus-Christ, mon Seigneur. Je dépends de lui en tout acte. Je ne me sauverai pas sans lui. Il est le Dieu d'amour que j'ai grandement offensé. Contrition. Contrition de nos péchés. Deuxièmement, ce qui est la suite de la contrition, la garde du cœur, la vigilance par rapport aux occasions de péché pour ne pas retomber. La prudence. Notre Seigneur nous dit bien, veillez et priez. Veillez et priez. Les bons sentiments ne suffisent pas. Il faut la persévérance. Il faut couper avec les mauvaises occasions. Qui sont différentes pour chacun d'entre nous. Mais disons que, il y a quand même, ici-bas, en 2023, il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. Les écrans, pardonnez-moi d'en parler. Et ça, c'est important. C'est une occasion de beaucoup de chutes. Perte de temps, perte de son âme. Puis après, on a tous nos propres défauts. La colère, la paresse, la jalousie, etc., etc. La médisance. Il faut prendre des résolutions pour lutter contre ces défauts. Pour ne pas offenser notre Seigneur. Troisièmement, l'importance de contempler, de la prière pour contempler la passion, pour pénétrer dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, pour y voir, connaître l'amour qu'il avait pour son Père et la haine du péché. L'importance de donner du temps à la prière, à la lecture, lecture de bons livres, qui nous aide un petit peu à pénétrer ces choses-là. Vous avez plusieurs livres sur la passion qui sont en vente ici. N'hésitez pas, ça fait du bien. Et puis quatrième point, je m'arrêterai là-dessus, le zèle pour le salut du prochain. Le zèle pour le salut du prochain. Tant d'âmes vont en enfer. L'importance pour nous de prier pour le salut des âmes, c'est les prières de Fatima. De réparer aussi les péchés commis. Quand on répare les péchés, on pourrait croire que réparer c'est juste négatif. On supprime, c'est comme essuyer la table, vous voyez. Après c'est propre. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Quand on répare des péchés, on convertit des âmes aussi. Des âmes de qui on a réparé des péchés, après peuvent se convertir beaucoup plus facilement. Et l'importance de la réparation, vous connaissez l'éruption de la montagne Pelée, parce que le péché n'a pas été réparé. Ces francs-maçons qui ont simulé un faux chemin de croix, en traînant une croix jusqu'au haut de la montagne, avec des enfants qui devaient insulter, cracher sur la croix, et qui au sommet de la montagne ont jeté la croix dans la fournaise, et personne n'a réparé, l'évêque n'a fait aucune procession, aucune prière publique. Le fait était public, hein, c'est pas quelque chose de caché. Des choses de public, tout le monde savait cela. L'évêque n'a rien fait. Tout a été détruit. Tout a été détruit. Il y a eu un survivant, un prisonnier dans sa prison qui est au courant de rien, parce qu'il devait témoigner. Tout a été détruit. Pas un seul survivant. Parce qu'il n'y a pas eu de réparation. Donc, prière, réparation pour les âmes, l'étude aussi. L'importance d'étudier pour pouvoir parler notre Seigneur, pour pouvoir défendre notre Seigneur, défendre la Sainte Église. Et puis du courage. Du courage et du tact aussi, il faut être prudent. Mais pour parler notre Seigneur, faire un signe de croix pour son bénédicité, ou pas hésiter à parler avec son voisin, au moment venu, au moment opportun, bien entendu. Mais si on rase les murs et qu'on garde notre foi dans notre petit intérieur, on ne partage pas un trésor énorme que bon Dieu nous a donné. Et bon Dieu attend davantage de nous. Davantage de nous. Nous devons être missionnaires. Nous devons être missionnaires.